c'est pas très important, mais je l'ai en tête. Tout à l'heure, j'étais un peu, voilà, comme je suis soucieux de l'organisation du culte, et peut-être trop, du coup, j'interfère peut-être parfois avec des personnes qui font de leur mieux déjà, donc je m'excuse auprès de ceux qui, auprès de qui j'aurais interféré, et qui, à qui j'aurais pas simplifié le travail. Voilà. Maintenant, on va commencer la prédication. Je voudrais lire la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Je lirai dans la version du Semeur. Je n'ai pas noté le verset, mais ça doit être autour du verset 35. Il n'y a pas de Bible, enfin, j'espère que vous allez trouver. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse ? La persécution ? La faim ? La misère ? Le danger ? Ou l'épée ? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort, à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Citation d'un psaume, je crois. Mais dans tout cela, rajoute Paul, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, écrit Paul. On pourrait traduire même hyper victorieux. En fait, c'est un mot qui n'existe pas en français, mais il n'existait pas non plus dans le dictionnaire grec non plus. C'est apparemment l'apôtre qui l'a forgé. Voici donc comment Paul qualifie les chrétiens, hyper victorieux. Et voilà de quoi faire vibrer. Et peut-être spécifiquement en ce moment où quand nous vivons avec un sentiment de pression, bon, ça dépendra des personnes, hein, mais pour plusieurs en tout cas, le sentiment de cette espèce d'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de notre présent, de nos façons d'être, et quand la conscience de sa présence vient conditionner nos comportements, peser sur nous, peser sur notre déplacement, peser sur nos relations familiales, peser sur nos situations professionnelles. J'ai été ému d'entendre à quelques reprises l'un ou l'autre me dire combien il pouvait être drainé à cause de la pression qu'il ressentait au niveau de son travail, voir combien il peut être coûteux de dire non parfois pour respecter les mesures qui nous sont imposées, qui nous sont demandées. Et nous entendons donc dans ce contexte cette parole, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes hyper victorieux. De quoi s'agit-il ? Alors je vais faire sonner un aspect des paroles, donc parce que ce qui me frappe dans ce passage, et je crois que ce qui nous permet d'entendre cette affirmation, c'est la façon dont Paul qualifie ce verbe d'avoir hyper la victoire, à savoir par « dans tout cela ». Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est quoi tout cela ? Ben, tout cela, c'est ce que nous lisons au verset 35, et je vais m'attarder un petit peu. C'est la détresse et c'est l'angoisse. D'abord. Donc là, sans doute des conditions subjectives, c'est ce qu'on ressent. Là, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est ce qui nous habite. C'est ce qui parfois nous taraude. Et quand il s'agit d'angoisse, c'est ce qui nous oppresse. C'est ce poids sur la poitrine qui peut être si présent parfois que nous n'arrivons pas à dormir et qu'on se tourne à droite et à gauche. Et puis non, ça tourne à l'intérieur. Ces moments où on se voit déglutir, où les appuis sont pas là, où on se sent un peu comme paralysé ou bien en chute libre. Et ces moments peut-être où on fait appel au Seigneur pour avoir de l'allègement et que parfois, ben, l'allègement n'est juste pas là. Et peut-être alors, ça croit le désarroi, parce qu'on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu ne m'aime plus tout d'un coup? Est-ce que Dieu n'est juste pas là? Persécution, c'est la situation que Paul a connue, et plusieurs fois même, on sait par d'autres textes qu'il a été fouetté, qu'il a été lapidé. Alors je vous dis ça très vite, hein, et puis on l'entend très vite, oui, ça doit être difficile, etc. Mais bon, je me dis, moi j'essaie de penser au moment où je me prends une branche en plein de quelqu'un qui est devant moi, qui laisse passer la branche et que je me la prends en plein visage, et j'imagine un peu ce que ça fait physiquement, c'est ça que j'ai envie d'entendre. Et les chrétiens de Rome à qui Paul écrit, 5 à 6 ans après la lettre, eh bien, ils la connaîtront de manière très directe, et ce sera bien pire que des coups de fouet. Et ce sont les survivants qui reliront la lettre et qui feront, en la lisant, mémoire de leurs amis, de leurs frères et sœurs, comme nous pourrions peut-être dans 5-6 ans nous trouver, ou vous trouver pour ceux qui restent bien moins nombreux, et faire mémoire de ceux qui étaient là ce matin, qui sont plus là. Parce qu'ils auront été donnés, en tout cas au premier siècle, ils auront été emprisonnés, puis donnés en pâture aux bêtes. C'était juste ça, dans l'arène. Enfin, c'était juste, voilà, c'était ça. Juste ça, c'est un euphémisme. Alors on se sent pour le moment loin, on ne connaîtra peut-être pas ces situations. Et en même temps, nous savons, par les témoignages qui nous ont été donnés par l'un ou par l'autre, notamment que ceux qui sont originaires de l'islam parmi nous sont parfois plus fragiles et vivent parfois dans la nécessité de faire profil bas, d'être discret, d'une certaine prudence. Et ça peut habiter la pensée aussi comme une autre épée de Damoclès. Il est question aussi de faim, et je trouve intéressant d'entendre et de lire que des chrétiens peuvent avoir faim. Que les chrétiens peuvent se trouver, des chrétiens peuvent se trouver dans ce dénuement-là. Alors qu'on serait tenté de lire des textes comme Matthieu chapitre 6, « Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, Dieu prendra soin de vous », un peu comme des espèces d'assurance tout risque. Non, non, mais il ne m'arrivera pas de manquer de quoi que ce soit. Et j'ai repensé en méditant ce texte à ce que Jésus dit lui-même à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est dans Matthieu 25, Jésus dit « J'ai eu faim, et il faut quelqu'un pour me donner à manger ». Si la persécution est très liée, évidemment, à la foi chrétienne, la faim, elle tient peut-être parfois juste au fait d'être humain dans un monde qui manque de ressources, où nous n'arrivons pas à trouver les ressources. Il est question aussi de misère, et le mot peut être traduit par nudité. Donc aussi quelque chose que Jésus, en Matthieu 6, dont Jésus nous invite à ne pas nous préoccuper, et dont Jésus lui-même souffre, en Matthieu 25, « J'étais nu ». Et quand il dit ça, il ne s'agit pas évidemment de ce sentiment qui nous afflige quand nous sommes dépossédés du dernier tailleur de chez Chanel, qu'on aimerait bien s'acheter, mais quelqu'un l'a pris juste avant nous. C'est trop dommage. C'est pas ça. Et puis le danger et l'épée, bien sûr, c'est à prendre littéralement, je crois, et à associer à tout ce qui fait que le monde dans lequel nous vivons n'est pas safe, n'est pas sûr. Dans une des salles des cours, je vais à Lyon lundi après-midi, une des salles de cours, il y a toujours des affiches. Que faire en cas il y a des affiches pour le coronavirus, et il y a des affiches « Que faire en cas d'attaque terroriste ?» Mais on peut élargir les fragilités, les accidents de voiture, c'est pas pour les autres. Enfin, c'est parfois pour les autres, mais ça nous concerne aussi. Donc voilà, je ne veux pas faire trop lourd en disant tout ça, mais je veux juste dire que c'est bien ça qui se passe. C'est dans ce contexte-là que la parole est énoncée. Des difficultés qui sont liées à la foi chrétienne et d'autres qui sont juste pas liées à la foi chrétienne. Et ce que je trouve touchant, ce qui me réconforte dans le texte, c'est que pour Paul, il dit pas c'est des choses étonnantes, ça doit jamais vous arriver, non pas du tout. Il dit c'est des choses que vous traversez. C'est pas étonnant, pas sans vouloir, faut pas se dire mais qu'est-ce qui se passe, non, c'est juste ça. C'est juste présent. Et c'est par rapport à ça qu'il parle de victoire. Le verset 38 précise en plus d'autres éléments de contexte dans lesquels c'est vécu. Donc il s'agit de la vie, mais c'est la vie dans son ensemble avec tout ce qu'elle compose. Il s'agit de la mort, que Paul appelle ailleurs le dernier ennemi, et l'ennemi donc il demeurera jusqu'à la fin de l'histoire, cet ennemi-là. Et puis il s'agit, et il y a je pense quatre formules pour en parler, il s'agit d'anges, il s'agit de nominations, et par là, il faut entendre le diable et ses troupes, si je peux employer ce langage. Ces êtres spirituels que la Bible nous dit actifs dans le monde, qui sont influents dans le développement du mal, dans les structures sociales, dans les structures sociétales, comme dans le poids qu'ils font jouer sur l'intériorité de chacun, et qui peut-être joue aussi parfois ou en partie un rôle quand l'angoisse vient nous habiter et quand se fait entendre une voix qui nous dit « Ton Dieu, il est où là ?» Ça sert à quoi d'être chrétien ? Ou bien une voix qui nous dit « Mais toi, je regrette, mais t'es vraiment trop nul, quoi. Franchement, t'es une vie chrétien, mais c'est médiocre. Après tant d'années de vie chrétienne, tu retombes encore dans cette bêtise, franchement. T'es un pauvre type, une pauvre bonne femme. T'es pas fichu de faire mieux que ça. C'est bon. Dieu doit être lassé. Tu es coupable. Ou bien ça peut être, tu n'en as pas fait assez, tu n'as pas assez montré d'amour. Qui c'est qui a montré assez d'amour cette semaine ? Levez la main. T'as pas assez prié, t'as pas assez évangélisé. Ou bien ça peut être, tu en as trop fait. Tu as gavé les gens, t'as trop insisté. T'as découragé, t'as été lourde. Tu as dégoûté à force d'en rajouter, d'en remettre et d'en remettre, à force de parler. Laisse tomber, quoi. Cette espèce de travail de sape qui est lié à l'adversaire, que l'Apocalypse appelle l'accusateur. Nous sommes en guerre, comme disait notre président il y a quelques mois. Une fois que je sais ce que le président a dit, je le place. Mais le coronavirus n'est pas l'adversaire principal, n'est pas le seul adversaire. Et il s'agit du présent, et il s'agit de l'avenir. Mais il s'agit au bout du compte, au final, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui compose, qui tisse notre vie. Il s'agit de tout ça quand ce qui est en jeu et en question, en vertige, c'est tout ce qui est là, tout ce qui est lutte au dehors, crainte au dedans, et quand ça peut contribuer insidieusement ou explicitement à nous distraire, à nous écarter, et au bout du compte, à nous faire un peu lâcher prise, à douter qu'il y a un Dieu qui nous appelle et qui nous aime encore. Et c'est le moment alors de lire les versets qui précèdent immédiatement. En fait, je commente un peu l'ensemble du chapitre. Paul dit, que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les ennemis de Dieu, les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et j'ai envie de dire, telle est la nature de la victoire. Elle tient à travers tout ce qu'on a évoqué au don du Fils de Dieu. Elle tient à un Dieu qui a été prêt à tout donner et qui donnera aux siens tout, nous dit Paul. Et qui là, aujourd'hui, en attendant ce moment où il nous donnera tout, qui dès aujourd'hui veut nous en assurer. Elle tient à une accusation portée contre nous qui est rendue inefficace si nous entendons ce que Dieu nous invite à croire. Et en même temps, extérieurement et en même temps intérieurement peut-être, le bilan ne paraît pas très brillant. Détresse, angoisse, persécution parfois, la faim, même la faim. la nudité, le danger. Juste avant, encore, je remonte un peu dans le texte, les Romains ont entendu Paul dire que la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Il rajoute qu'elle n'est pas la seule, puisqu'il dit au verset 23, « Nous aussi qui avons reçu l'Esprit, excusez du peu, nous aussi qui avons reçu l'Esprit, nous gémissons du fond du cœur. » Notre vie chrétienne est faite du tissu rugueux de la vie humaine. Donc hyper victorieux, oui, mais pas au sens d'un espèce de triomphalisme un peu en apesanteur. Hein. Il y a un passage très frappant dans le chapitre 4 de la première lettre aux Corinthiens. Paul s'adresse aux Corinthiens qui se voyaient déjà dans le royaume de Dieu. Qui apparemment pouvaient s'en gargariser, qui essayaient même peut-être de se surexciter les uns les autres, j'en sais rien. Mais Paul disait avec une ironie mordante, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous voilà riches, vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez en train de régner, pour que nous aussi nous soyons rois avec vous. Mais voilà, nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Revoilà la faim. Nous sommes mal vêtus. Revoilà la nudité. Nous nous épuisons. Donc, hyper victorieux. Cela semble se traduire ici, en fait, par ce que nous lisons au verset 25. Non pas le fait de vivre en apesanteur, mais dans cette capacité à endurer. Je sais pas mieux à vous proposer. Paul dit, nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Et le mot pourrait être traduit, c'est le pouvoir, c'est la force de résistance. C'est cette solidité dans la durée, malgré le sapage, je ne sais pas si c'est le mot juste, enfin quand ça sape, quoi. La persistance, la force de supporter, la force de résister, de supporter sans fléchir, sans se laisser entamer. Et c'est de cette façon-là, je crois, que se traduit ici-bas le fait que nous sommes hyper victorieux. C'est pas une vie qui sera forcément plus simple ou plus légère, elle l'est parfois, hein, mais qui étonnamment se traverse avec endurance dans l'attachement à Jésus, et qui fait qu'au lieu de succomber à la tentation de nous détacher du Christ, parce que c'est bien ce sur quoi porte l'effort de l'adversaire dans le texte, eh bien, étonnamment, peut-être, nous entendons cette parole d'attachement de sa part. Que rien ne nous arrachera à son amour. Et nous voilà, étonnamment peut-être, à nous y attacher. Vaille que vaille. Au-dessus, au-delà, au travers de toutes les émotions difficiles, des situations inconfortables, inextricables, au-delà de ces voies insidieuses qui nous amènent à douter, il y a aussi cette voie, au moins dans les textes, peut-être à l'intérieur de nous, quand quelque chose au fond de nous dit « Abba Père », étonnamment, il y a cette voix qui nous dit l'amour de Dieu et qui fait que nous tenons. Pour certains, c'est même de l'ordre de la joie. Ce n'est pas le cas de tout le monde, tout le temps. Dans ces lettres de prison, donc, qui datent de 1945, hein, le pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, qui a été martyr de la barbarie nazie, en fait, il a été exécuté, il avait participé à un complot contre Hitler, donc ça s'est pas bien passé pour lui. Il a été emprisonné, il a été exécuté juste quelques jours avant la libération des camps. Je crois que c'était une semaine avant. Donc, dans ses lettres de prison, Bonhoeffer parle étonnamment de la joie en Christ Il donne cette image qui parlera peut-être aux musiciens et à d'autres non-musiciens. J'en donnerai une autre après. Il parle de la joie en Christ comme le cantus firmus. Alors ça, c'est du latin. C'est l'illustration vient du chant polyphonique à plusieurs voix. Et le cantus firmus, en fait, c'est la voix qui chante la mélodie. C'est la voix qui est autour de laquelle toutes les autres voix brodent. Donc c'est la ligne directrice, si je puis dire. Et c'est ce qu'il voit, lui, l'habiter au cœur des camps de la mort, la joie, comme avec toutes les choses qui se greffent autour de son histoire de vie, une joie qui reste là et qui tient. La ligne mélodique qui reste présente et qui reste déterminante par rapport au reste de la vie. Et si vous préférez une autre image, il y en a autour de nous, enfin, je ne sais pas trop où ils sont d'ailleurs, mais Claude le saurait, c'est le mur porteur, c'est tout simplement. Si le bâtiment tient, c'est parce que le mur porteur est là. Et si c'est chez vous, ça tient sans doute parce qu'il y a un mur porteur. Et c'est là. Et le bâtiment peut être soumis à bien des intempéries. C'est là notre victoire. C'est là notre confiance. C'est ce mur porteur qui habite notre vie. Quand la détresse, etc., nous affecte, quand la mort, quand l'adversaire et sa cohorte semblent s'acharner sur nous, quand la vie se fait tendue, je nous invite à nous attacher, à continuer à nous attacher au fait que rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au cœur de la détresse, à dire étonnamment à l'agneau de Dieu, soit la gloire. Au cœur de l'angoisse, quand elle est là, de dire à l'agneau de Dieu la victoire. Au moment où je suis invité à faire profil bas, sommé de me rabattre, de me replier, de me soustraire, de me dégager, de me désengager, je veux dire à l'agneau de Dieu, soit le règne devant la faim, devant la nudité. Je veux essayer de continuer à dire à l'agneau de Dieu soit la richesse, et devant le danger, devant l'épée, à l'agneau de Dieu soit la puissance. C'est ce que chante l'Apocalypse. Et je nous invite encore à nouveau, toujours, à nous rattacher à ce moment paradoxal que l'évangile de Jean présente comme le moment de la gloire de Jésus-Christ et de l'hyper-victoire de Jésus-Christ. C'est la croix. Le moment est venu pour que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est la croix. Et c'est paradoxal ce moment, parce que c'est bien là où Jésus reprend les traits de cet agneau immolé. Et on le mesure, et je le rapproche du texte de Romains 8. Je veux m'attacher à cet homme qui lui-même était à ce moment-là dans la détresse, qui était dans l'angoisse la plus vive, qui était dans la persécution la plus sévère, qui était dans les mauvais traitements, la faim sans doute un petit peu, en tout cas la soif, j'ai soif, et une soif qui n'a été étanchée que par quelques gouttes de vinaigre, devant le danger, devant l'épée. Nous sommes bien plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. J'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous propose, pour faire écho peut-être, à chanter ensemble à l'agneau de Dieu, le 519.